Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire d'un énorme gâchis qui dure depuis des décennies. Elle raconte un scandale, en vérité. La manière dont ce qu'on appelait autrefois la DAS, et aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, s'applique à priver les enfants d'amour. Et c'est votre histoire, Liès. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous avez raconté cette histoire dans un livre, « Dans l'enfer des foyers », paru chez Flammarion, aujourd'hui en poche chez J'ai lu, qui raconte comment, donc, de votre naissance jusqu'à vos 18 ans, l'aide sociale à l'enfance vous a baladé de familles d'accueil souvent malfaisantes, en foyers violents, en prenant soin de faire en sorte que vous n'ayez pas d'amour. Cet amour qui permet en général à un enfant de se construire en sécurité. Votre histoire est absolument terrible, vous vous en êtes sorti, et cela montre que vous êtes un miraculé. Je vais faire aujourd'hui quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais raconter votre histoire au jeu, c'est-à-dire en essayant de me mettre à votre place. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je n'ai pas de père, ma mère est malade mentale, le reste de ma famille ne veut pas de moi. Alors je dépends de l'État, de l'aide sociale à l'enfance. On me dit souvent que je suis courageux, ça devrait me faire plaisir, mais en vérité, j'ai pas pu faire autrement. C'était « je marche ou je crève ». Finalement, je m'en suis sorti. Alors je vais vous raconter mon histoire d'enfant placé, mon parcours de sans-famille, au milieu des crachats, sous le joug d'un État qui gère au pire. D'abord, voilà ce que je sais du début de mon histoire. Comment je suis né? Un jour, ma mère se promène dans le centre des Mureaux, en banlieue parisienne. Elle est belle, ma mère. Brune, classe. Elle a un rendez-vous pour un emploi. Une grosse voiture noire ralentit à son niveau. Dedans, il y a un homme d'une quarantaine d'années, beau gosse. Il baisse sa vitre.
Vous cherchez du travail, mademoiselle?
Oui.
Ça tombe bien, je peux vous aider. Je suis formateur.
Ah oui, mais là, j'ai un rendez-vous.
Je vous emmène, si vous voulez. Si ça marche pas, on verra ce qu'on peut faire.
Il l'a aidé, comme il l'avait promis. Il l'a emmené boire des cafés chez McDo, déjeuner au Flunch. Il lui a acheté des vêtements. Il a surtout couché avec elle. Et elle est tombée enceinte. Et elle a couru chez lui pour le lui dire. Et là, elle a découvert qu'il était marié.
Ah mais moi, je veux pas d'enfants. J'ai aucune intention de le reconnaître. Et puis je quitterai pas ma femme.
On a proposé à ma mère d'avorter. Elle n'a pas voulu. Et le 3 novembre 1994, à 18h15, elle a accouché de moi. Et juste après, elle a fait sa première crise de délire. Elle est malade, ma mère. Malade psychiatrique. Elle n'a pas pu s'occuper de moi. C'est comme ça. On m'a déclaré enfant de l'État. Et donc, on m'a mis dans une pouponnière dès le lendemain de ma naissance. Et après, franchement, j'ai eu de la chance. À 18 mois, on m'a placé dans une bonne famille, chez Émilie. Émilie, elle a fait comme si c'était ma mère. Elle m'a nourri, elle m'a bercé, elle m'a consolé quand je pleurais. Elle m'a soigné et surtout, elle m'a fabriqué des souvenirs. Je les ai toujours, hein. Un petit jardin, un cerf-volant sur la plage, des promenades en bateau-mouche, un chat noir très câlin, des jouets, des peluches, de l'amour au robinet. Franchement, c'est ça qui m'a sauvé. Et puis, il y avait sa sœur, Agathe. Elle habitait tout à côté, elle n'avait pas d'enfant. Elle s'est attachée à moi, elle aussi. Tout était parfait. Et puis, Émilie a voulu déménager. Elle a voulu aller dans le sud. Elle pensait qu'elle pourrait m'emmener avec elle, mais l'aide sociale à l'enfance s'y est opposée. On ne peut pas éloigner cet enfant de sa mère génétique. Hein, ça n'est pas souhaitable, n'est-ce pas? Il faut maintenir le lien. Alors Émilie a fait une demande d'adoption. Ma mère était d'accord, elle est toujours d'accord, ma mère. Mais là encore, l'aide sociale à l'enfance n'a pas voulu. On ne peut pas retirer définitivement l'autorité parentale à sa mère, enfin, c'est quand même sa mère. Alors ben, il a fallu quitter Émilie. Un jour, ma nouvelle famille est venue me chercher. Une horrible dame blonde qui m'a embarqué. Je sais que j'ai beaucoup pleuré. J'ai pu emporter mes peluches, surtout ma préférée, le petit ourson qu'Émilie m'avait offert. J'avais 4 ans. J'avais l'âge de comprendre que j'étais tombé dans les griffes d'une sorcière. Et donc, on me place chez cette grosse dame blonde. J'arrive chez elle, vous savez le premier truc qu'elle fait. Elle prend mes peluches, et d'abord celle que je préfère, le petit ourson. Elle l'attrape par une patte, et elle le balance à la poubelle. Et dans la foulée, toutes les autres. Vous me croyez pas, hein? C'est vrai pourtant. Et puis, ça non plus, vous n'allez pas le croire. Elle ne m'envoie pas à l'école. Elle me garde enfermé chez elle, je vous jure. Et quand elle reçoit des gens, elle m'enferme dans le placard à balai, juré. Il n'y a plus de sourire. Il n'y a plus de cadeaux pour mon anniversaire. Il n'y a plus de chat noir à qui faire des bisous. J'ai oublié les bisous. Et puis, elle ne me donne pas à manger 3 fois par jour. Elle est payée pour ça pourtant, mais non. Et la nuit, elle me fait dormir sur une planche de polystyrène, sans oreiller, sans doudou. Et puis elle me frappe. Quand je pleure, elle me frappe. Ça dure 2 ans, de mes 4 ans à mes 6 ans. Il faut 2 ans à l'aide sociale à l'enfance pour réaliser que je suis victime de mauvais traitements et pour me retirer de chez elle. 2 ans. Et en plus, je crois pas qu'elle ait été inquiétée. Il n'y a pas eu de suite. On lui a juste retiré son agrément, on ne lui confie plus d'enfant. D'après ce que j'ai compris, il aurait fallu que ce soit ma mère qui porte plainte. Mais ma mère quoi. Après, on veut se rattraper. Alors on me place chez Tata. J'ai 6 ans. Et Tata me rachète des peluches, un petit lapin gris. Elle est pas méchante, Tata. Mais disons que je ne débarque pas dans sa vie au bon moment. Elle est dépressive, Tata. Remarquez, il y a de quoi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Avant moi, elle s'occupait d'une petite fille, Mélodie. Et elle a fait une bêtise. Elle s'y est attachée. Elle l'aimait, quoi. Et elle a voulu l'adopter. Et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, a refusé.
Madame, vous n'êtes pas là pour remplacer sa mère. Elle a une mère. Défaillante, certes, mais elle a une mère. Notre travail, votre travail, est de sauver ce lien. Vous n'avez pas à vous immiscer là-dedans.
Et donc, on lui a retiré Mélodie. C'est la règle à la noix de l'ASE. Ne jamais remplacer les parents naturels, génétiques. Même s'ils sont perdus, alcooliques, toxicomanes, partis. Sauvez le lien. Et vous, pendant ce temps-là, eh ben vous grandissez sans amour. À leurs yeux, c'est pas grave. Ils appliquent leur règle à la con. C'est le principal. Et donc c'est pour ça que Tata pleure tout le temps. Elle envoie des petits colis à Mélodie. On les lui retourne. Et elle chiale. Pas de chance pour moi. Et comme du coup je suis pénible, eh bien un jour elle m'amène chez le pédopsychiatre de l'ASE, qui me prescrit du Valium, du Tertian et du Risperdal. On me drogue. Et du coup j'ai plus envie de rien, sauf de manger, de bouffer, de dévorer. J'ai 9 ans, je grossis à vue d'œil. Un loukoum. Je me déteste. Un jour je lui dis,
t'as pas le droit de me forcer à bouffer tes médocs.
J'étais terrorisé à l'idée de devenir telle mère, tel fils, un fou comme elle. Je suis resté 4 ans chez Tata. Et puis à 10 ans, on me place dans un foyer. J'arrive avec ma peluche, bien sûr, mon petit lapin gris. C'est tout ce que j'ai. Et les autres, eh ben c'est à lui qu'ils s'en prennent d'abord. Mon petit lapin. Et après, il s'attaque à moi. Au foyer, tu comprends vite comment ça marche, hein. Tu passes dans le couloir, bam, un tacle. Tu vas à la douche, bim, un coup de poing. Tu vas aux toilettes, bam, un crochet ou des baffes. On t'humilie tout le temps. Le soir, t'es là dans ton lit, tu t'endors lentement. Et d'un coup, les grands débarquent et ils te collent une tarte. Ça les fait rigoler. Et toi, t'encaisses. T'apprends à éviter les embrouilles. Et donc je me suis mis à faire comme les autres. Maintenant, j'insulte les éduques.
Et ta mère va ! Va te faire enculer ta race !
Je fume aussi. Je survis. Au foyer, normalement, le week-end c'est mieux. Il y en a qui rentrent chez eux, on a moins peur. Et pourtant, un soir, un week-end, je suis en train de m'endormir. Un grand entre dans ma chambre. Il me saute dessus. Il transpire. Il bande. Et quand il a fini, je me dégoûte. Je me dégoûte. J'en parle pas, ça me dégoûte. Et ça recommence. Et un jour, je le croise dans le couloir. Il me colle au mur. Son haleine est fétide. Il me dit,
je t'aime.
On ne m'avait jamais dit je t'aime. Je savais pas que ça provoquait la nausée. Aujourd'hui, j'ai 14 ans. Et fini le foyer. On m'a placé chez Denis, un homme seul, veuf, bizarre et très rare. La première fois que je le vois, pardon, hein, mais il me fait penser à un gardien de prison. Grand, l'air un peu bêta, et surtout... sale, sale comme un peigne, avec sa chemise écossaise qui n'a pas été lavée depuis très longtemps, ses bottes toutes crottées. Il sent des pieds, il sent des aisselles. Il me fait visiter sa maison, sa piole pue. Je lui pose la question.
Est-ce que j'aurai une chambre ?
Oui. Oui, j'ai une chambre, dégueulasse. 9 mètres carrés, encombrée par une énorme armoire. Les draps sont troués, on dirait un vieux torchon. L'oreiller n'a pas de housse, il est tout jaune. Je veux ranger mes affaires dans l'armoire, la grosse armoire. Elle est pleine à craquer de ses affaires. Alors ben, je les laisse dans la valise. Il a une ferme, Denis. Des moutons, des chèvres, des oies, des poules. Eh bien, on a décidé que ce serait ça, mon activité. M'occuper des animaux. Je vais plus à l'école, j'ai 14 ans, je suis garçon de ferme. Le matin, ni bonjour, ni café, ni biscuit, hein. Je dois aller nourrir les bêtes à la brouette. Garçon de ferme, je vous dis. Enfin, au moins, chez lui, je mange bien. Et je bois du cidre. À part ça, il parle pas beaucoup, hein. Un jour, je suis en train de couper des tomates et en même temps, je suis au téléphone avec ma mère. Je l'appelle de temps en temps, c'est ma mère tout de même. Normalement, j'ai pas le droit, hein, de l'appeler tout seul. Il arrive, il met direct le haut-parleur. Je me lève, je dis,
si t'écoutes mes conversations, je t'éclate la gueule avec mon couteau. Je t'égorge, d'accord ?
Juste après, sa mère à lui est morte. Il a plongé dans la dépression. Il me l'a collé sur le dos. C'était ma faute.
Je ne veux plus de toi ici. J'ai eu plein de jeunes ici. Il n'y a qu'avec toi que ça se passe mal.
C'est faux. Je suis un agneau à côté des autres au foyer. Alors voilà, ça a duré un mois et demi. Et maintenant c'est fini. Il veut plus de moi. Et juste avant que je parte, il égorge le mouton que j'ai vu naître. Et donc je me retrouve sur un banc dans le bureau de l'aide sociale à l'enfance, au Mureau.
Oh là là! On sait pas quoi faire de toi, hein. On n'a pas une place de libre.
Alors on finit par me coller à Versailles, au foyer départemental de l'enfance Robert Carpentier. Un château immense, glacial, découpé en secteurs numérotés, comme une prison. On me met en G1, dans une chambre à quatre, avec trois autres lascars, bien excités. Je voudrais dormir. Je suis fatigué. Mais pas eux. Et là, ça part en vrille. Ils retournent à la chambre, ils renversent les meubles. Ils n'ont rien à perdre, puisqu'ils n'ont rien. Ça part tellement en vrille qu'ils appellent les flics, qui débarquent, qui les embarquent, et le directeur en profite pour me faire la leçon.
Tu vois ici, ça va vite. Tu déconnes, au panier.
C'est un foyer d'urgence, donc j'y reste pas longtemps.
On va me mettre dans un foyer ?
Non. Le lendemain matin, on me colle dans une voiture et on prend la route de Sartrouville. Je sais pas où je vais. J'ai 15 ans maintenant, je ne sais pas où on m'emmène. J'arrive devant un portail noir et là je vois une dame sur le perron. Une petite bonne femme enveloppée dans une robe verte, algérienne manifestement, mais blonde, 65 ans au moins. Je rentre dans sa maison. Ah ouais, sympa, chaleureux, cosy. Je m'y sens bien tout de suite. Elle s'appelle Yasmina, et quand l'éducateur est parti, elle me fait un grand sourire, et elle me dit
« Bon, et maintenant tu me racontes en vrai ce qui se passe. »
Et là je regarde ses yeux, ses petites fossettes, charmantes, et je me dis « Il va se passer quelque chose ici, quelque chose de bien. » Je lui raconte tout. Ma mère, Émilie, la grosse dame blonde, le fermier qui pue, je mets tout sur le dos de l'ASE. Et elle n'essaye pas de me contredire, hein. Elle connaît la musique. Ça fait des années qu'elle accueille des enfants. Elle les prend tout bébé, elle les garde jusqu'à leur mariage. Dans le quartier, on l'appelle l'ange. Je me sens tout de suite bien chez elle. Ma chambre, on dirait une suite impériale. Les draps ne grattent pas, il y a une couette, et il y a même une télé. Tout ça pour moi. Ah oui, je vous l'ai pas encore dit. Chez Yasmina, je suis pas tout seul. Mais les autres sont grands, ils sont adultes. Il y a Armand, un punk d'une vingtaine d'années, avec une crête rose. Il y a Sofiane, on devient tout de suite amis. Il y a Ahmed. Il y a Rufus, un Congolais très poli et gentil. Et puis il y a Sarah, qui, quand elle avait 8 ans, a vu son père et sa mère se pendre. Elle a un petit bébé, Sarah, qui vit avec nous, chez notre ange à tous, Yasmina. J'ai 15 ans maintenant. Et l'école, c'est fini. Je n'ai même pas réussi à terminer ma quatrième. Il faut bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai choisi la cuisine, un peu par hasard. J'ai fait un CAP, vite fait, à Cergy. Et là, je suis en stage, dans un snack chez Steve, un ancien taulard qui a l'air d'avoir 60 ans, mais qui en vérité en a 40. Il bosse avec son frère, Kevin. Je me sens si bien avec eux que j'y passe ma vie. Et maintenant, ils m'ont confié la cuisine. Oh, je suis pas un grand chef, hein, mais je connais des recettes simples. Les plats sont prêts à temps. Ils sont corrects. Ça tourne. Et puis pour la première fois de ma vie, on ne se plaint pas de moi. On ne m'engueule pas. On me montre que je progresse. On me dit « s'il te plaît ». On me dit « merci ». La vie s'est tellement arrangée pour moi que j'ai maigri, figurez-vous. Le patapouf qu'on bourrait de médicaments a disparu. Le sort m'a gâté, finalement. On m'a aimé quand même un peu. On m'a donné la force qu'il fallait pour ne pas sombrer. Je m'en suis sorti. J'entends souvent les autres, ceux qui ont des parents, se plaindre de leur famille. Je comprends pas. Je peux pas supporter. J'ai envie de hurler. Mais tu ne sais pas la chance que tu as. Maintenant, je pourrais leur dire. Va écouter mon histoire. Voilà donc pour l'histoire de Liès, tirée de son livre « Dans l'enfer des foyers » paru chez Flammarion et disponible aujourd'hui dans la collection de poches J'ai lu. Ça va Liès ?
Oui, ça va, un peu ému. C'est très bizarre de vous entendre
parler
raconter
à votre place.
Ma propre histoire. Ouais.
À votre place, j'ai été fidèle.
Très, oui, oui.
Merci.
Très.
Alors il y a une chose que j'ai pas racontée quand même et qui est assez positive. Pendant toutes ces années, vous n'avez pas complètement perdu le contact ni avec Émilie, ni avec sa sœur Agathe.
Ouais, complètement.
Elles ont gardé un œil sur vous.
Et puis même encore aujourd'hui. Enfin, c'est. J'avais la chance quand même durant mon placement de pouvoir retourner de temps en temps en vacances pendant les vacances scolaires et particulièrement pendant les vacances d'été chez elle. Et c'était vraiment des bulles d'air en fait dans mon quotidien que de la retrouver. Et puis encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est un peu avec ma dernière famille d'accueil. Voilà, la seule famille.
Ce sont vos points d'ancrage aujourd'hui.
Complètement, ouais, complètement. Mais vraiment énormément. Enfin, j'ai Agathe par exemple, c'est tous les jours au téléphone. Enfin, c'est...
Mais elle peut encore vous adopter, en vérité, sous le régime de l'adoption, ça.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, maintenant, voilà, on est aussi passé à autre chose de ce côté-là. Et puis, je me suis construit différemment avec les moyens.
L'histoire s'est faite comme ça, quoi. Votre mère, bon, on a compris que. Elle est malade. On a compris aussi que vous ne lui en voulez pas de ça.
Non.
La maladie psychiatrique, elle n'y peut rien.
Non seulement elle n'y peut rien, et puis je pense malgré tout qu'elle a toujours essayé d'avoir un regard bienveillant sur les choses et qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait sur les temps où on était ensemble, parce qu'on avait des visites médiatisées en fait.
Vous la voyez de temps en temps.
Je la voyais de temps. Mais j'ai appris en fait son existence très tardivement, c'est-à-dire que quand j'étais encore chez Émilie, je ne la voyais pas.
Donc, du tout.
Je ne l'avais même jamais vue.
Vous saviez pas qu'elle existait.
Ben non. Donc je l'ai appris bien plus tard. Ça. Et on a commencé. Enfin, l'ASE a décidé de mettre en place des visites médiatisées. Donc c'est encadré par du professionnel et des coups de fil aussi médiatisés, donc qui sont entendus et retranscrits. Enfin, c'est une démarche qui est très spécifique. On a maintenu un lien. Un petit lien durant mon placement, mais qui était pas suffisamment fort pour le poursuivre après. D'ailleurs, je suis plus du tout en contact avec elle.
Plus du tout.
Non. À 18 ans, le jour de mon anniversaire, je suis allé au Mureaux et elle habite avec sa mère et
sa sœur.
Et sa sœur.
Qui est dans le même état qu'elle.
Qui est dans le même état et puis avec des oncles aussi. Enfin, c'est très particulier comme environnement familial chez moi. Et donc, le jour de mes 18 ans, j'y suis allé et je lui ai dit qu'elle n'avait de toute façon plus besoin de signer mes papiers.
Ouais.
Et voilà, j'ai plus jamais...
Vous l'avez plus jamais revu.
Non.
Vous avez tenté aussi, vous le racontez, d'aller voir votre père.
J'ai essayé.
Génétique.
Ouais, j'ai essayé parce que, en fait, au moment du foyer, vers l'âge de 10-11 ans, peut-être 12 d'ailleurs, je l'ai vraiment questionné sur qui il était et dans quelles circonstances aussi j'avais été conçu. Et elle m'avait apporté quand même des bribes de réponses, notamment son nom, son prénom, là où il habitait. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. Et un jour, je me suis dit justement que j'allais franchir le pas pour essayer de rentrer en contact avec lui.
C'est sa femme qui vous a ouvert.
Ouais, enfin c'était délicat.
Il n'a pas souhaité renouer le contact.
Non, bien sûr que non. En plus, il a des enfants aussi qui sont beaucoup plus grands. Et puis. Après, j'ai essayé de rentrer en contact, mais plus avec eux, du coup. Et bon, voilà, évidemment, on se prend des portes quand c'est comme ça. Mais...
La porte est refermée maintenant, avec eux, avec lui
aussi.
Ouais,
et puis c'est une démarche que j'ai pas nécessairement envie de retenter, en plus, pour le coup.
Je vous comprends. Je voudrais donc, Liès, qu'on retourne au début de l'histoire, parce qu'il y a donc une occasion manquée très douloureuse, qui est Émilie. Vous êtes placée chez Émilie à 18 mois, vous y restez jusqu'à vos 5 ans. On vous laisse avec Émilie, votre vie.
n'est pas la vie vraiment différente. Ça, c'est une évidence, ouais. Évidemment. Malheureusement, c'est pas la décision qui a été prise. Et ce qui me chagrine le plus dans cette affaire, c'est que je suis pas vraiment un cas isolé, si vous voulez. Enfin, les décisions qui sont prises par l'aide sociale à l'enfance, alors de moins en moins maintenant, parce que la loi est venue un peu remettre un cadre là-dedans et dans les champs d'intervention, mais à l'origine, c'était quand même, enfin, la première des missions de l'aide sociale à l'enfance, la reconstruction du lien parent-enfant et le retour au domicile aussi à un moment donné.
Depuis
des enfants placés.
Depuis l'après-guerre, c'est la règle de l'aide sociale à l'enfance.
C'est ça, ça a eu énormément de mal à
privilégier le lien génétique.
Le lien du sang, voilà, c'est ça.
C'est fou, donc, hein, parce que c'est culturel en vérité.
Ouais, certainement, oui. Et donc du coup, l'ASE donc a décidé que malgré le fait que je ne connaissais pas ma mère, je devais rester dans son département d'origine, donc dans son département d'habitation
au
en fait, au Mureau, voilà, donc dans les Yvelines. Et elle a pas pris en compte que cette personne n'était de toute façon pas capable de pouvoir assumer
jamais.
Une parentalité. D'ailleurs, le comble pour moi et ce qui peut-être m'énerve le plus, c'est qu'elle était sous tutelle elle-même. Donc ça veut dire au regard de la société en incapacité d'être responsable des actes voilà de juridiques de sa propre vie et responsable d'elle-même en gros. Mais elle a quand même pu avoir une autorité parentale sur un enfant et ça c'est.
Mais le pire c'est qu'elle était d'accord pour qu'Émilie vous adopte. Vous
oui,
le dites ça.
Bien sûr, il y avait aucune opposition. Puis je pense que de toute façon même encore il y a peu de temps jusqu'à ce que j'ai rompu les liens avec elle, elle ne sait pas ce qu'est être parent et elle ne le comprend pas. Donc au final. Qu'on lui propose que je sois adopté, c'est même pas quelque chose qu'elle peut intellectualiser, ou voilà, c'est bah pourquoi pas, enfin c'est très...
Mais ce qui est incroyable, c'est que des gens qui sont censés, au fond, veiller sur vous, ne se rendent pas compte que ce dont vous avez besoin à cet âge-là, c'est-à-dire
c'est de stabilité,
à 4 ans, c'est d'amour aussi.
Et d'amour et de stabilité, complètement.
C'est des bisous dans le cou, mais en vérité, une mère d'accueil n'a pas le droit de vous faire des bisous dans le cou.
Non. Enfin, en tout cas, la doctrine actuelle, elle commence à évoluer. On commence vraiment à privilégier justement cette question des liens et de maintenir aussi les liens qui se construisent en dehors du schéma familial. Mais c'est encore compliqué dans les pratiques à vraiment faire évoluer.
Mais à l'époque,
c'était inconcevable.
Vous avez quel âge, là?
Là, j'ai 24 ans.
Donc, ça, on parle pas du Moyen-Âge.
Ah
hein.
Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand...
C'était il y a 20 ans.
Voilà. Et quand je raconte parfois mon histoire, on me demande, mais, ou quand les gens ont lu le livre, ils se demandent, mais à quelle époque ça s'est passé?
Il y a pas longtemps.
Et non, ça s'est passé il y a 24 ans, en fait. Donc, c'est récent. C'est pas quelque chose qui date de l'après-guerre.
Très touchant que vous dites sur votre passage chez Émilie. Vous dites, elle m'a fabriqué des souvenirs. Ouais. Vous parlez d'un cerf-volant sur la plage. Ouais. Vous parlez d'un petit jardin.
Et puis un chat noir.
Et du chat.
Ouais. J'ai des souvenirs assez clairs en plus de cette période. Donc,
sont des souvenirs doux?
Ouais, principalement oui, clairement. Ouais. Et puis je pense qu'en fait, sans ça, ça aurait été compliqué peut-être d'arriver à recréer un lien. Je pense à ma dernière famille d'accueil particulièrement. C'est-à-dire qu'elle a posé des bases et puis après, ça a permis de faciliter la relation avec ma dernière famille
d'accueil. C'est-à-dire quand on se revoit, on parle des souvenirs.
On parle des souvenirs et puis bon après on parle aussi de beaucoup de choses qui se sont passées dans mon placement, ça. Parce qu'il y a quand même une culpabilité un peu de sa part d'avoir déménagé et de ne pas être resté.
Pour vous.
Ouais voilà, donc du coup c'est vrai que...
Elle a suivi, ça je ne l'ai pas raconté parce qu'on ne peut pas tout dire hein, dans un récit comme ça d'une demi-heure.
Ouais.
En vérité elle suit son mari.
C'est ça,
qui lui est muté dans le sud.
Ouais.
Voilà. En même temps elle a une
raison.
Et ils
ont divorcé peu de temps après d'ailleurs.
Voilà. C'est vraiment l'histoire des occasions manquées. Alors ensuite, il y a la grosse dame blonde. J'adore l'idée que vous ne lui ayez pas donné de prénom, ni de nom, ni rien du tout.
Non, et puis en plus, pour le coup, j'ai des souvenirs très précis aussi de ce passage chez elle. Mais en effet, aucun souvenir positif.
Elle est destructrice, en vérité.
Oui.
Perverse.
Oui, complètement.
La scène où elle jette votre petit ourson est... terrible.
Mais il n'y a pas eu que ça, je veux dire. Enfin, c'était moi, je me souviens que la pièce où je dormais, en effet, c'était un morceau, une plaque de polystyrène qui était posée à même le sol. Et parfois, elle me laissait vraiment plusieurs jours dedans, en fait. Et il m'était arrivé, c'est une scène, ça m'a vraiment traumatisé. J'avais pas accès aux toilettes, donc évidemment, j'avais fait mes besoins sur moi. Ouais. Et là, elle a pété un câble. Donc, elle m'a traîné dans la douche de force. C'était à l'eau froide, enfin hyper violente. En plus.
Pourquoi est-ce qu'elle accueille des enfants, cette femme? Et d'ailleurs, ça permet aussi de poser la question, en général, pourquoi les familles d'accueil prennent-ils des enfants à domicile?
Je pense que ça peut être un revenu complémentaire pour un couple.
Vous savez combien aujourd'hui?
C'est très peu. Hein. Honnêtement, je vais être très honnête.
C'est 1000 balles par enfant.
Non, pas par enfant, en fait. En France, on a un fonctionnement qui est très particulier. On est le seul pays européen à avoir professionnalisé le métier de famille d'accueil.
Oui.
à partir de un enfant, on va être sur un salaire qui va être un tout petit peu plus supérieur que le SMIC. Donc on va être sur du 1200 euros net en premier accueil. Ensuite, on va avoir une somme supplémentaire pour le second et une autre somme supplémentaire pour le troisième.
Non, ça veut dire qu'en restant à domicile, on peut quand même gagner dans les 2000 euros par mois pour trois enfants.
Oui, complètement.
Plus les frais.
Oui, plus les frais. Ouais,
il y a pour le salaire, vêtements, la nourriture,
après, y a en effet
les vacances.
Les frais qui touchent à l'entretien de l'enfant, que ce soit sur le plan des vêtements.
Donc, un moyen. Ça, ma question, c'est un moyen de gagner sa vie.
C'est un moyen de gagner sa vie. Après, c'est un métier où c'est du 7 sur 7, 24 sur 24, et où le salaire il est quand même extrêmement déraisonnable par rapport à la mission. C'est une réalité aussi en France. Là, d'ailleurs, on est confronté à une vraie problématique, c'est que dans les 5 prochaines années, on va être vraiment carencé dans le dispositif de protection de l'enfance parce que la majorité des familles d'accueil vont partir à la retraite. On n'embauche plus de familles d'accueil aujourd'hui en France.
Il n'y a plus de vocation ?
Non. Non, parce que c'est un métier qui est, voilà, on le disait.
C'est un don de soi.
Oui, et puis qui est hyper compliqué. C'est, il y a à la fois la question des liens qu'on peut avoir avec les enfants, la question de l'attachement, la question des conditions salariales aussi, qui sont très précaires, malgré tout, parce que c'est 24 sur 24, 7 sur 7. L'isolement, c'est une profession qui est méconnue. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle. Il n'y a pas un éducateur ou une assistante sociale qui vient deux fois par an vérifier que tout va bien.
Eh ben non, malheureusement, non. En fait, ça dépend. Enfin, je dis non, mais ça dépend. Il y a des départements comme la Gironde. Enfin, là, c'est l'exemple qui me vient en tête et c'est le premier, mais qui se sont dotés de cellules de contrôle, qui ont dit, on fait voter un budget pour créer des cellules de contrôle avec, c'est pas des inspecteurs, ils ont pas le titre d'inspecteur, mais ils vont chez les familles d'accueil à l'improviste, ils vont dans les foyers à l'improviste et ils ont vraiment un contrôle très poussé sur ce qui est mis en place pour l'enfant et comment l'enfant se sent.
Mais ça reste.
Non, mais parce que les départements, ils sont très très peu à s'être dotés de cellules de contrôle. C'est pas réellement une obligation. La loi n'impose pas un contrôle inopiné chez les gens, etc. Donc, c'est au bon vouloir du département. Voilà. Et dans le mien, en tout cas, ça ne se passait pas.
Alors, Tata, on peut passer assez vite sur Tata, bien que vous y ayez quand même passé pas mal de temps chez elle. C'est-à-dire que c'est assez intéressant l'histoire de Tata, parce qu'au fond, elle est dépressive à la suite d'un mécanisme qui lui-même vous rend malheureux. C'est parce qu'on l'a pas laissé adopter le précédent, la précédente, qu'elle est dépressive.
Ben oui. Parce que ça a été un choc pour elle. Et c'est pour ça d'ailleurs, je rebondirai là-dessus après peut-être, mais sur le terme enfant placé. Souvent, on me dit, c'est un terme qui n'est pas joli, qui n'est pas beau, qui sonne pas de façon positive.
Il y en a plein de termes qui sont pas beaux dans ce monde-là.
Voilà. Mais enfant placé, à chaque fois, c'est quelque chose. Mais pourquoi tu dis que tu es un enfant placé? Tu n'es pas un enfant accueilli. Typiquement, c'est ce qui s'est passé chez Tata. Elle a accueilli une gamine chez elle qui était là depuis toute petite, qui a dû partir parce qu'en effet, il y avait une espèce de, en plus, une rivalité entre les parents biologiques de la gamine, etc. Et moi, on m'a mis chez elle à un moment qui était très douloureux pour elle, parce qu'il y avait de la place, en fait. Si cette gamine était toujours là, je ne serais jamais allé chez elle. Mais là, il y a eu de la place à ce moment-là. Et là où ça a été très problématique, et c'est là aussi où moi, je ne lui en veux pas. Enfin, j'ai pas d'animosité particulière vis-à-vis d'elle, parce que je pense qu'elle a essayé du mieux qu'elle a pu de créer du lien et d'avoir une présence suffisante pour moi. Parce qu'elle savait ce que j'avais traversé déjà avant dans la précédente famille d'accueil, donc elle était plutôt bienveillante, en tout cas la première année. Et quand on a vu, moi j'étais assez sauvage déjà à cette époque, quand on a vu que le lien ne se faisait tout simplement pas et il n'y avait pas de feeling entre elle et moi, en plus j'étais quand même un enfant, c'était pas le plus facile à gérer, elle avait demandé à ce que je parte. C'est-à-dire qu'elle avait demandé plusieurs fois au placement familial, son employeur, de trouver une autre solution pour moi. Et elle a jamais été entendue. Et de là, après, évidemment, la situation monte. Et on en arrive à des passages à l'acte maltraitants. Voilà.
Alors, là, c'est loin du regard de l'aide sociale à l'enfance. Mais le coup d'après, vous êtes en foyer. Et là, pour le coup, vous êtes dans une structure qui est sous les yeux d'éducateurs professionnels, qui est gérée par des pros.
Ou pas.
Bah, en l'occurrence,
là, toujours.
On est quand même assez stupéfait par ce que vous racontez. Vous avez donc été violé dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, géré par une association.
Géré par une association, mais financé par l'aide sociale à l'enfance.
Vous n'avez pas porté plainte?
Non, jamais. Jamais.
Les faits ne sont pas prescrits, vous le savez?
Non, ils ne sont pas prescrits. Après, j'ai bien conscience que c'est toujours une possibilité pour moi. J'ai encore cette chance de pouvoir le faire, mais
pas tellement pour votre violeur qui sans doute un pauvre mec qui en a bavé des ronds de chapeau, mais quand même il y a des éducateurs qui sont là pour vous garantir.
Ouais, complètement.
La sécurité.
C'est ça. Mais cette structure, elle accueillait quand même 40 enfants sur deux étages différents. Il y avait un étage pour les filles, un étage pour les garçons, mais c'était de 3 à 18 ans. Donc sur des tranches d'âge complètement disparates en fait. Et à partir de là, de toute façon, évidemment, rien ne peut se passer normalement et ni correctement, j'ai envie de dire. La problématique, c'est que les professionnels, et j'y mets des grosses guillemets parce qu'ils n'étaient pas tous diplômés, ils n'avaient pas tous fait une formation pour devenir éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, peu importe. Il y avait d'anciens enfants placés de ce foyer-là qui exerçaient en tant qu'éducateurs faisant fonction, quoi, non diplômés. Sur le terme professionnel, c'est pas tout à fait vrai, mais il y avait... de toute façon, énormément de maltraitance entre les enfants, parce que c'est aussi les problématiques de la collectivité. Quand il y a un nombre d'enfants trop important dans une structure, il faut s'attendre à ce que, bah oui, il y a des
boucs émissaires. C'est juste que vous êtes là pour qu'on vous protège.
On est là, exactement. Et en fait, on vous expose. Et c'est là où c'est intolérable. Ouais. Mais ce qui était aussi intolérable, c'était la maltraitance des adultes vis-à-vis des enfants. Moi, je me souviens qu'il y avait quand même des punitions hyper sadiques dans cette structure. C'était la punition de la chaise, bien sûr, la punition de la chaise. À chaque fois qu'on faisait une connerie, que ce soit à l'école ou qu'on fuguait, c'était le dos contre le mur, en position de chaise mais sans chaise, un dictionnaire sur la tête, une balle de ping-pong, l'éducateur qui passait avec une clé en fer, qui tapait dans le genou si la balle de ping-pong tombait, de balayer et de frapper au sol.
Fin des années 90, hein, pas, oh, même pas.
Même pas.
Fin des années de 2000.
On était
2000,
sur début 2000, ouais. Donc c'était en effet il n'y a pas si longtemps.
Un mot juste sur Denis Le Fermier. On hallucine là, parce que quand même, comment obtient-il son agrément? C'est un homme seul qui vit dans la crasse, qui vous prend pour un garçon de ferme, il vous scolarise pas, enfin qu'est-ce que c'est que ça?
C'est tout le problème de ce qu'on appelle des lieux de vie.
C'est un lieu de vie.
C'est un lieu de
vie. Mais vous êtes le seul à vivre dans le lieu de vie avec lui.
Ah oui, oui, non, mais c'est ça qui est assez impressionnant.
Parce que dans les lieux de vie, vous êtes 10 normalement.
Eh ben oui, voilà. Donc là, c'est un lieu de vie, il a un agrément pour un lieu de vie, donc en fait, c'est une association. Il gère une association, il avait d'autres financements par ailleurs parce qu'il faisait des visites scolaires, il avait un gîte, enfin bon bref. Donc le département paye et finance des places pour les enfants placés dans ces lieux-là, mais les conditions d'agrément sont beaucoup plus souples en fait que s'il s'agissait d'une famille d'accueil. Voilà, donc il y a un regard qui est beaucoup moins important sur la situation du mineur dans ces endroits-là. Et une opacité totale d'ailleurs sur les critères.
Dingue. Malheureusement, Liesson, on arrive au bout. J'aurais voulu qu'on passe un quart d'heure à parler de Yasmina. On m'a dit que vous vouliez devenir éducateur.
Je le suis.
Vous l'êtes?
Je le suis, oui.
Vous l'êtes devenu?
Je le suis, je travaille dans une association de protection de l'enfance à Paris.
Et vous vous occupez d'enfants placés?
Oui, et je suis membre du Conseil National de la Protection de l'Enfance.
Vous avez fait quelque chose de tout ce malheur, quoi.
J'essaye.
Merci beaucoup, Liesson. Je suis content de vous avoir rencontré. Votre livre, j'en rappelle le titre, s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». On le trouve encore sur internet chez Flammarion, mais il est disponible en librairie dans la collection de poche J'ai lu.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.